RFI à Paris et Bangui, les 7h-9h à Amman.
RFI Matin.
L'heure du journal. Bonjour Clotilde Dumais.
Bonjour Andréane, bonjour à tous. Le secrétaire d'État américain au Moyen-Orient pour évoquer la situation en Syrie. 4 jours après la chute de Bachar al-Assad, la communauté internationale surveille de près l'arrivée des rebelles à Damas. Un massacre encore en Haïti, dans l'Artibonite, de plus en plus loin des centres urbains. Les campagnes qui ne sont désormais plus épargnées par la violence des gangs. Dans l'actualité également, les Américains partagés sur le cas Luigi Mangione. Certains le considèrent presque comme un héros populaire alors qu'il est accusé d'avoir tué un patron d'une grande assurance santé. Et puis la France, toujours en attente d'un nouveau Premier ministre, le président Emmanuel Macron devrait donner un nom d'ici ce soir.
Il appelle les Syriens de l'étranger à rentrer chez eux pour reconstruire leur pays et s'engage à respecter toutes les communautés ethniques et religieuses. Le Premier ministre de transition multiplie les messages rassurants à Damas.
4 jours donc après le départ de Bachar al-Assad et l'arrivée des rebelles menés par les islamistes du Hayat Tahrir al-Sham, le parti Baath au pouvoir depuis plus de 50 ans a suspendu ses activités. L'aéroport de Damas doit rouvrir dans les prochains jours et la joie des habitants se fait ressentir dans de nombreuses villes jusqu'au Kurdistan. Syrien. À Kamishli, notamment, les forces kurdes ont repris le contrôle de la dernière enclave du régime dans la ville, mais le traumatisme laissé par le régime est encore bien présent. Reportage de Marie-Charlotte Roupy.
L'empreinte de la famille El-Assad s'estompe peu à peu dans les rues de Kamishli. Les portraits de Bachar et son père Hafez sont lacérés et sur ce rond-point, à l'entrée de la zone que l'on surnommait encore il y a quelques jours la place du régime, le portrait, aux couleurs des forces kurdes, d'un militaire tué dans un bombardement turc a remplacé la statue de Hafez el-Assad. Azad était là pour le voir.
C'était tellement chargé émotionnellement. On a presque pleuré. C'était très tôt le matin, je voulais être là juste pour vivre ce moment. Quand je suis arrivé, les gens avaient commencé à démonter cette statue et c'était vraiment incroyable. Parce que ce régime dictatorial, il était si dur. Il faut qu'Assad soit reconnu responsable devant la Cour internationale.
Cette place du régime, incarnation du pouvoir baassiste à Kamishli, faisait peser le poids de la dictature sur les habitants qui craignaient en s'y aventurant de ne pas en ressortir. Ces rues sont ouvertes à présent, mais Nisrin refuse d'y mettre les pieds.
Jusqu'à maintenant, je ne peux pas. On avait interdiction d'y entrer et on a toujours peur aujourd'hui. Personne ne veut y aller. Je marche dans cette rue, mais pas à cet endroit. Je ne peux pas. Je ne suis pas à l'aise. C'est psychologique.
Aujourd'hui, la zone qui abritait un centre de détention et les bâtiments des institutions baassistes est passée sous contrôle militaire kurde. Et c'est un sentiment ambivalent qui prédomine dans la ville, entre la joie de la fin de la dictature et l'inquiétude face à la recrudescence des bombardements turcs. Marie-Charlotte Roupy, Kamishli, RFI.
Et justement, les forces pro-kurdes ont annoncé une trêve avec les forces pro-turques dans la région de Manbij où les combats ont fait 218 morts ces derniers jours. Le secrétaire d'État américain sera d'ailleurs en Turquie demain. Anthony Blinken, d'abord attendu aujourd'hui en Jordanie. On retrouve Guillaume Nodin depuis Washington. Un nouveau déplacement, Guillaume, pour parler évidemment en grande partie de la situation en Syrie.
Oui, c'est son 12e voyage dans la région depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre de l'an dernier. La situation à Gaza et la recherche d'un cessez-le-feu avec Israël que les États-Unis ne parviennent pas à obtenir malgré leurs efforts affichés ne seront cette fois que l'un des aspects du voyage. C'est aussi ce qui se passe à Damas qui inquiète l'administration Biden finissante. Anthony Blinken va en parler d'abord à Aqaba en Jordanie, puis à Ankara en Turquie, deux pays partenaires importants pour les États-Unis dans la région. Depuis qu'ils ont salué le renversement du régime de Bachar al-Assad, les États-Unis ne cachent pas leur inquiétude sur l'avenir et sur les intentions des nouveaux maîtres djihadistes de la Syrie. Le département d'État se dit favorable à une transition inclusive menée par les Syriens vers un gouvernement responsable et représentatif. Ce gouvernement devra aussi respecter les droits des minorités, faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire, empêcher que le pays serve de base au terrorisme et permettre la sécurisation et la destruction des stocks d'armes chimiques, selon les souhaits de Washington. « Je ne suis pas confiant », a dit Anthony Blinken au moment de partir. Le président Biden dit, lui, vouloir se concentrer sur les actes plutôt que sur les mots des nouveaux maîtres de Damas.
Cette administration Biden, qui n'en a plus que pour un peu plus d'un mois à la Maison-Blanche, Guillaume, ensuite ce sera le retour de Donald Trump. Alors qu'est-ce qu'il pense, lui, de cet épisode ?
Eh bien, depuis la chute du régime, il répète que la situation en Syrie ne concerne pas les États-Unis. « Nous ne sommes pas impliqués là-bas », indique-t-il dans un entretien au magazine Paris Match publié ce mercredi. Les États-Unis ont pourtant environ 900 soldats dans le pays en mission contre l'organisation État islamique. Des frappes aériennes ont déjà été menées contre elle depuis la chute et la fuite de Bachar al-Assad.
Les explications de Guillaume Nodin depuis Washington. Et puis elle connaissait aussi très bien le Proche et le Moyen-Orient. RFI a appris la disparition de Dominique Roch, journaliste pendant plus de 25 ans dans la région. Elle a notamment couvert la guerre au Liban pour RFI avant de rejoindre le service international à Paris, puis d'être nommée envoyée spéciale permanente à Jérusalem. Dominique Roch avait 70 ans. Emmanuel Macron attendu à Varsovie à la mi-journée pour discuter d'un renforcement du soutien à l'Ukraine. Le président français doit rencontrer son homologue polonais ainsi que le Premier ministre Andrzej Duda. Emmanuel Macron qui s'est laissé jusqu'à ce soir pour nommer un nouveau Premier ministre plus d'une semaine après la censure du gouvernement de Michel Barnier.
Un nouveau massacre en Haïti.
Cette fois-ci dans l'Artibonite au nord de Port-au-Prince. Au moins 10 personnes ont été tuées par des gangs. Un nouveau drame qui montre que les campagnes, longtemps perçues comme des refuges, deviennent désormais des cibles privilégiées de la criminalité organisée, amplifiant une crise sécuritaire qui déborde maintenant largement des centres urbains. Correspondance de Peterson Luxama depuis Port-au-Prince.
Dans l'Artibonite, les gangs armés reviennent à la charge. Cette région a été le théâtre d'un nouveau carnage dans la nuit de lundi à mardi. Bilan, au moins 10 personnes tuées. Ce nouvel acte barbare porte l'empreinte du gang-gangriff opérant à Petite Rivière de l'Artibonite. Selon les habitants, les malfrats lourdement armés ont fait irruption dans le village, s'attaquant sans distinction à la population. Parmi les victimes, on compte notamment des enfants et des adolescents pris au piège de cette violence insensée. Pour échapper à de nouveaux assauts des gangs, certains habitants ont dû fuir leur maison. Cette nouvelle tuerie collective survient alors que la police nationale, accompagnée des policiers kényans, a fait son retour à Petite Rivière de l'Artibonite le samedi 7 décembre après une longue absence des forces de l'ordre. Mais cette présence policière semble sans effet sur les gangs armés qui multiplient leurs exactions. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
Et à partir d'aujourd'hui, 3 journées de deuil ont été décrétées par le gouvernement après le massacre perpétré cette fois-ci le week-end dernier à Cité Soleil où plus de 180 personnes ont été tuées. Dans ce contexte, le régulateur américain de l'aviation a décidé de prolonger de 3 mois l'interdiction de survol de Port-au-Prince par les avions civils américains.
En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi a prononcé son habituel message à la nation hier devant le Parlement congolais réuni en congrès à Kinshasa.
L'occasion pour le président de dresser un bilan très flatteur des actions de son gouvernement dans de nombreux secteurs de la vie socio-économique du pays. Il a toutefois reconnu que la sécurité restait un défi majeur pour la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi qui s'en est une nouvelle fois prise au Rwanda, qu'il accuse désormais d'être en train de repeupler certaines parties de l'est de la RDC par des étrangers, sans donner plus de détails.
Notre pays reste confronté à des rébellions persistantes, dont l'agression de l'armée rwandaise et des terroristes du M23 qui entravent la stabilité nationale, le développement et l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Ces ennemis de la République continuent d'occuper une partie des territoires de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo et Lubero, provoquant un afflux massif de déplacés internes. Grâce à la détermination de nos forces armées, et au soutien de la Communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, nous avons repoussé les agresseurs et leurs supplétifs qui comptaient sur une victoire facile et immédiate. Au-delà des déplacements massifs de populations provoqués par la guerre, un phénomène alarmant s'observe. Le dépeuplement progressif de certains territoires stratégiques, suivi de leur repeuplement par des populations étrangères implantées par le Rwanda.
Les propos de Félix Tshisekedi recueillis par Esdras Ndikumana. Il est presque considéré désormais comme un héros par certains Américains. Aux États-Unis, le cas de Luigi Mangione fait beaucoup parler. Cet ancien étudiant brillant, originaire d'une famille aisée, est accusé d'avoir abattu au cœur de New York le patron d'une grande entreprise d'assurance santé. Il a été arrêté en début de semaine après plusieurs jours de recherche, puis inculpé pour ce meurtre. Les empreintes digitales et les douilles retrouvées sur le lieu du crime correspondent à celles du suspect qui voulait vraisemblablement s'en prendre aux entreprises du secteur de l'assurance santé, critiquées aux États-Unis pour leurs coûts élevés, à tel point donc que certains Américains comprennent le passage à l'acte de Luigi Mangione. Reportage à Atlanta d'Edouard Maille.
Travis se promène avec un ami. Si l'accusé Luigi Mangione est jugé coupable, Travis espère une faible peine car il soutient complètement les motivations du jeune homme arrêté par la police.
C'est un espoir, vous savez. Bonnie and Clyde étaient des héros populaires. Ils volaient aux riches et donnaient aux pauvres et tout ça. Ça fait partie de notre culture. C'est comme ça que naissent les héros populaires. Et cette personne va en devenir un. Ce qui l'a mené à ça, c'est la souffrance. Et ça dépasse le paysage politique aux États-Unis. Cette souffrance, on est nombreux à la ressentir.
Michelle, elle, ne voit pas Luigi Mangione comme un héros, mais comprend la colère contre les entreprises d'assurance santé.
Ce qu'il a fait est mal, mais je comprends totalement ses raisons. Les compagnies d'assurance ici sont très maléfiques. Elles refusent des demandes de clients qui ont besoin de traitement ou de soins pour sauver leur vie.
Ismaël, lui, ne partage pas ce constat. Il n'y voit aucun héroïsme.
Non, ce n'est pas un héros, clairement pas. Un meurtre est un meurtre. Il faut en payer le prix. Et peu importe la raison, il a pris la vie de quelqu'un.
Selon une analyse d'un avocat pour le New York Times, même si les procureurs disposent de nombreuses preuves contre le jeune homme, le procès sera compliqué car il faut constituer un jury populaire. Il sera difficile de trouver des jurés neutres qui n'ont jamais eu de soucis avec leurs entreprises d'assurance santé. Edouard May, Atlanta, RFI.
RFI 7h11 à Paris. Il vient de sortir son 18e album. C'est l'un des grands noms de la chanson française.
Louis Chédid, de retour avec l'album Rêveur, Rêveur, 12 nouvelles chansons avec lesquelles il parvient encore et toujours avec des mots simples à éveiller en douceur les consciences. Louis Chédid au micro d'Edmond Sadaka.
Le bonheur fait ma joie, si vous sifflez dans la rue, vous passez pour un hurluberlu.
Quand vous dites à Louis Chédid qu'avec 50 ans de carrière au compteur et des tubes par dizaines, il n'a plus grand-chose à prouver, il vous répond que c'est tout le contraire.
J'ai beaucoup plus à prouver qu'avant. Quand on a fait justement une vingtaine de disques et quelques chansons connues, etc., à chaque fois que vous sortez un nouvel album, les gens comparent à ce que vous avez fait avant. À chaque fois, je me dis, bon, la montagne est là devant moi, comment je fais pour arriver là-haut, quoi ?
Quand on s'envolera, qu'on retournera.
Au fil de ses 12 nouveaux titres, Louis Chédid se joue des styles, consonance jazz latino sur certains morceaux, ambiance très acoustique sur d'autres titres comme Danseur sur gazon.
Et nous revoilà garçon, demoiselle.
Sur ce disque aux vibrations très positives, le chanteur de 77 ans a pu compter sur un solide soutien familial. Son épouse co-signe un texte, sa fille Anna assure certains chœurs et son fils M, Mathieu Chédid, lui offre quelques solos de guitare dont il a le secret.
Louis Chédid interrogé par Edmond Sadaka, Louis Chédid, qui sera en concert demain et samedi au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris.
Merci Clotilde Dumais. 7h13 à Paris, bienvenue si vous nous rejoignez. RFI Matin, on est ensemble jusqu'à 9h. L'info africaine revient dans 20 minutes. Mais d'abord, notre invitée Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale française. Elle va répondre aux questions d'Arnaud Pontus. Rendez-vous à 7h20. D'abord le sport avec vous, Antoine Grenier, et du football, la 6e journée de Ligue des Champions s'est achevée hier. Barcelone et Arsenal se replacent sur le podium.
Le Barça grâce à sa victoire à Dortmund 3-2, et les Gunners parce qu'ils ont surclassé Monaco 3-0 avec notamment un doublé de Bukayo Saka. Deuxième défaite d'affilée pour le club de la Principauté, désormais 16e du classement. Thilo Kehrer, le capitaine monégasque, reconnaît que les Gunners étaient tout simplement meilleurs.
Bon, je pense qu'il y a eu beaucoup de phases où on s'est montré. On était pas mal dans le match. Après, on a fait trop d'erreurs. On a donné des cadeaux. On a eu trop de pertes de balles, surtout sans pression ou avec peu de pression. Et Arsenal, avec leur qualité individuelle, il punit ses erreurs. Aujourd'hui, on prend cette défaite. On sait que Arsenal, ils étaient au-dessus. Mais on a une équipe jeune. On doit prendre ça comme un leçon et apprendre. On a deux matchs avec Aston Villa et Inter qui sont pas évidents avec beaucoup de qualité. Mais on a déjà aussi montré dans notre match qu'on peut être au niveau.
Thilo Kehrer chez nos confrères de Canal+, une sixième journée qui aura souri aux équipes à domicile. L'Atlético de Madrid, vainqueur 3-1 du Slovan Bratislava. Lille, 3-2 face au Sturm Graz, pendant que l'AC Milan s'imposait 2-1 face à l'Étoile Rouge de Belgrade. La Juventus s'offre Manchester City, 2-0, tandis que Feyenoord domine le Sparta Prague, 4-2. Et Stuttgart s'offre le carton du soir, 5-1 face aux Young Boys de Berne. Enfin, un match nul à signaler, 0-0 entre Benfica et Bologne.
Fin de la sixième journée de Ligue des Champions, place à la sixième journée de Ligue Europa.
Une journée qui a démarré hier avec le succès de l'Athletic Bilbao, 2-0 sur Fenerbahçe. Les Espagnols provisoirement en tête du classement devant la Lazio de Rome qui va affronter l'Ajax Amsterdam. Troisième de cette phase de Ligue, l'Eintracht Francfort se déplace sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais. Des Gaunes qui n'ont plus perdu depuis le 24 octobre face au Beşiktaş. Série à poursuivre, estime l'entraîneur lyonnais Pierre Sage.
Je pense qu'on est à l'altitude qu'on souhaitait visiter, puisque pour arriver à cette altitude-là, il a fallu gravir pas mal de mètres, et que ce soit en championnat ou dans cette Coupe d'Europe, il me semble qu'on l'a fait avec plutôt de l'efficacité. Donc effectivement, maintenant, on est à un autre palier, et ça nous permettra de savoir où on en est. Sur la valeur de l'adversaire, il y a toujours une valeur potentielle, une valeur affichée, il y aura la valeur du match. Et dans tous les cas, effectivement, il se situe dans les équipes les plus compétitives qu'on a rencontrées depuis le début de saison. Mais on a joué, vous savez, tous les cadors entre guillemets de notre championnat, et donc on est aussi prêt à disputer ce genre de rencontre.
Lyon Eintracht Francfort à suivre dès 20h temps universel.
Football toujours, et c'est désormais officiel, le Mondial 2030 sera organisé sur 3 pays et même un peu plus.
Maroc, Espagne, Portugal, voilà les pays organisateurs auxquels il faudra ajouter 3 matchs en Amérique du Sud pour fêter entre guillemets le centenaire de la compétition, dont la première édition s'était tenue en Uruguay. Édition 2030 à cheval sur l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du Sud, de quoi libérer la place pour une édition asiatique en 2034, et ça sera en Arabie Saoudite, a confirmé la FIFA à l'unanimité des votes des fédérations membres.
Antoine Grenier, vous revenez tout à l'heure à 7h42 temps universel.
RFI Matin.
Aujourd'hui, l'économie sur RFI. Bonjour Stéphane Genest.
Bonjour Andréane.
Ce matin, vous nous parlez des cabinets de conseil en Afrique et d'une affaire qui touche l'un d'eux, bien connu, McKinsey. Sa filiale opérant en Afrique du Sud, McKinsey Africa, a récemment été condamnée à payer 122 millions de dollars aux États-Unis. En échange, la justice s'engage à arrêter les poursuites pour des faits de corruption par le cabinet sur des fonctionnaires sud-africains.
Oui, on va y revenir dans le détail dans quelques instants, mais d'abord une petite explication de ce qu'est un cabinet de conseil. Il s'agit d'entreprises qui mettent à disposition de leurs clients des consultants. Leur mission, c'est de faire un état des lieux d'une situation donnée. Une fois que c'est fait, ils délivrent leurs avis ou leurs recommandations. Ces clients, ça peut être n'importe qui, de grands groupes internationaux, aux États, en passant par des institutions. Le recours à ces structures, eh bien évidemment, ça a un coût. Il évolue en fonction des moyens qu'on y met, mais compter plusieurs milliers d'euros par jour, et cela uniquement pour un consultant.
Des cabinets qui assistent différents États.
Oui, notamment dans leur stratégie de développement. Des dizaines de structures de ce type conseillent différents gouvernements. McKinsey, PwC, KPMG, Boston Consulting Group, par exemple. Ça, ce sont des groupes internationaux, mais il y a aussi des cabinets locaux qui opèrent sur le continent africain. Et d'ailleurs, au niveau mondial, le secteur connaît une croissance annuelle d'au moins 10%.
Et ces entreprises, Stéphane, elles sont très sollicitées.
Illustration au Sénégal, avec le plan Sénégal émergent, plan dont le premier jet a été élaboré par le cabinet de conseil américain McKinsey, qui dressait les axes de développement du pays. Ou encore en Afrique du Sud, on l'évoquait, entre 2012 et 2016, ce même cabinet McKinsey a obtenu des millions de dollars pour conseiller le développement de deux entreprises publiques, Eskom pour l'électricité et Transnet pour les transports.
Et c'est là qu'il y a eu des dérives.
D'après la justice américaine, qui a travaillé en lien avec les autorités sud-africaines, McKinsey a soudoyé via des intermédiaires des responsables de ces deux entreprises, cela en échange d'informations confidentielles sur les procédures d'attribution de lucratifs contrats de conseil qui lui ont rapporté près de 85 millions de dollars. Sauf que voilà, ces deux entreprises ont pratiquement fait faillite en raison justement d'une corruption généralisée dont la mise au jour est devenue un scandale d'État.
Alors évidemment, il ne s'agit pas de généraliser.
Évidemment, hein. Les cabinets de conseil et leurs consultants, s'ils sont souvent discrets voire invisibles, ne sont pas tous des acteurs de la corruption. Et après cet accord entre la justice américaine et McKinsey de 122 millions de dollars pour mettre fin aux poursuites judiciaires aux États-Unis et en Afrique du Sud, le cabinet a affirmé qu'il était aujourd'hui un groupe différent du moment où les faits se sont produits. Une amende pour solde de tout compte qui passe mal en Afrique du Sud, où certains auraient voulu voir les coupables traduits devant une cour criminelle. Et face au tollé déclenché par cette affaire, le gouvernement sud-africain a d'ailleurs décidé de ne pas collaborer avec McKinsey pour la préparation du sommet du G20. Il se tient l'année prochaine à Johannesburg.
Aujourd'hui, l'économie avec Stéphane Jeunesse. Merci Stéphane, 7h20 à Paris. Notre grand invité international ce matin avec Arnaud Pontus, la présidente de l'Assemblée nationale française, Yaël Braun-Pivet, est en ligne avec nous de Rabat.
Bonjour Yaël Braun-Pivet.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes au Maroc dans le cadre d'une mission de diplomatie parlementaire. Et pendant ce temps, la France attend toujours le nom de son prochain Premier ministre. Est-ce que vous savez si c'est bien pour aujourd'hui ?
Bah écoutez, nous allons, comme vous et comme vos auditeurs, attendre les annonces du président de la République. Ce qui était important pour moi, pour nous, pour l'Assemblée, c'est de continuer à travailler. L'Assemblée, aujourd'hui, va se réunir sur l'examen de la loi spéciale. Moi, je suis en mission diplomatique avec une de mes vice-présidentes et le président de la Commission des Affaires étrangères. Donc, l'Assemblée fonctionne. Et moi, en tant que présidente, c'est ça qui m'importe au premier chef.
Oui, vous n'avez pas plus d'informations alors qu'il est en tant que présidente de l'Assemblée, quatrième personnage de l'État. Vous auriez pu être informée, peut-être.
J'ai des échanges réguliers avec le président de la République et vous pensez bien que je ne vais pas relater la teneur de ces échanges sur votre antenne ce matin.
Je m'en doute. Est-ce que vous espérez toujours une décision rapide ?
C'est important qu'effectivement il y ait une décision qui soit prise. Après, vous savez, c'est ce que je vous disais sur l'Assemblée, les affaires du pays sont traitées, sont gérées. Pour que nous puissions lever les impôts, il fallait une loi spéciale. Cette loi spéciale a été présentée en Conseil des ministres hier. Elle sera examinée cet après-midi en commission des finances et lundi dans l'hémicycle. Donc en fait, l'absence de nomination d'un nouveau gouvernement n'empêche pas l'examen de cette loi spéciale, n'empêche pas les procédures de continuer, n'empêche pas l'Assemblée et le Sénat de se réunir. Donc en fait, c'est ça qui est important, je crois, pour vos auditeurs et pour les Français d'une façon générale. Les institutions sont solides, elles continuent à fonctionner. Et le nouveau gouvernement s'insérera dans ce processus qui est en place. Il défendra ou pas la loi spéciale lundi. Oui. Mais si je n'ai pas de nouveau gouvernement, ce sera l'ancien gouvernement qui le fera. Et ça n'entache en rien la procédure et la capacité de légiférer. Donc oui. Ça,
en quelque sorte, vous nous dites qu'on peut attendre. On peut attendre alors.
Je vous dis que, en tout cas, c'est un choix qui appartient au président de la République, que moi je me suis exprimée à plusieurs reprises pour dire qu'il fallait que cette nomination intervienne rapidement, mais je vous dis également que les procédures nécessaires à la continuité de l'État ne sont pas dépendantes de la nomination d'un nouveau Premier ministre, elles peuvent se réaliser maintenant et c'est d'ailleurs ce qui se passe.
Oui, vous qui êtes au contact de cette Assemblée si morcelée, quel serait d'après vous le bon profil pour le poste de Premier ministre ?
Écoutez, je me suis exprimée à plusieurs reprises sur ces sujets, mais si je suis venue sur votre antenne ce matin, c'est pour vous parler du Maroc, pour vous parler de nos relations, pour vous parler de la diplomatie parlementaire, pas pour faire des prédictions sur qui ou quoi ou quand ni comment, chacun dans son rôle. Je crois que c'est important aussi dans ces moments qui sont compliqués que chacun respecte les institutions et en tout cas, moi, c'est mon rôle premier.
Oui, Yaël Braun-Pivet, avant d'en venir au Maroc, on va parler de la Syrie, car évidemment c'est le sujet d'actualité internationale qui domine ces derniers jours. Après la chute de Bachar al-Assad, ce sont les rebelles islamistes du HTS qui prennent les commandes du pays. Est-ce que cela vous inquiète ?
Alors, il faut être en tout cas extrêmement attentif à ce qui se passe en Syrie. La chute de Bachar al-Assad a été extrêmement rapide. C'est une bonne nouvelle pour le monde et en premier chef pour les Syriens. Maintenant, il faut réussir à ce que il y ait de la stabilité et que le nouveau régime qui s'installera puisse, un, correspondre aux aspirations du peuple syrien et, d'autre part, assurer cette stabilité et permettre à la Syrie de reprendre une place dans cette région et d'assurer pleinement ses missions. Donc, attendons, ne soyons pas dans la précipitation, mais soyons extrêmement attentifs pour que un régime autocrate n'en remplace pas un autre.
Oui, le nouveau Premier ministre de transition promet calme et stabilité. Vous voulez le croire ?
Eh bien, écoutez, en tout cas, c'est ce qu'il faut espérer, surtout pour la population. À nouveau, nous sommes, vous savez, moi, je suis une grande démocrate, et donc une population doit pouvoir s'exprimer sur le choix de ses dirigeants et le choix de ses institutions. Et donc, c'est toute cette transition que maintenant doit avoir lieu en Syrie. Et nous serons évidemment extrêmement attentifs à cela et aidants si le besoin s'en faisait sentir.
Oui, attentifs et aidants. Est-ce que la France doit entrer en contact, en dialogue avec ces nouvelles autorités syriennes?
Écoutez, on regardera ça et à nouveau, ça sera à l'exécutif de le faire, au nouvel exécutif de le faire. Mais en tout cas, moi, ce que je crois, c'est que la France a toujours été aux côtés des pays qui voulaient s'engager sur le chemin de la démocratie. Encore ici, lorsque nous avons échangé hier avec le président de la Chambre marocaine, il nous a dit à quel point il s'était inspiré du règlement, de notre constitution pour pouvoir avoir des institutions solides et effectives. Et donc la France s'est toujours tenue aux côtés des peuples qui avaient ce type d'aspiration.
Oui, aussitôt après la chute de Bachar al-Assad, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, entre autres, ont annoncé le gel du traitement des demandes d'asile venant de Syriens. Est-ce que la France doit faire la même chose ?
En tout cas, c'est sûr que ça induit une nouvelle situation, une nouvelle appréciation de cela. Maintenant, les personnes syriennes qui sont sur notre territoire et qui demandent l'asile doivent voir leur demande continuer à être instruite. On ne saurait interrompre cela. Comme on le disait à l'instant, la situation reste extrêmement fragile. Donc il ne faudrait pas en tirer des conséquences définitives sur la vie qui implique la vie de famille, alors que nous ne savons pas encore comment la situation va évoluer.
Donc,
en Syrie dans les semaines et les mois qui viennent.
Oui, ne pas aller trop vite en la matière et les 700
demandes.
Ne jamais
aller trop vite.
Oui. Et les 700 demandes d'asile et les 700 demandes d'asile en cours de traitement doivent arriver, doivent continuer à être traitées.
En tout cas, moi, en tant que président de l'Assemblée, c'est ce que je recommanderais, même si en cela, je ne suis pas décisionnaire. Mais en tout cas, ne jamais aller trop vite, ne jamais considérer que les situations sont irréversibles. On a malheureusement trop d'histoire ou trop d'exemples où l'évolution n'a pas été celle que l'on espérait. Ouais. Donc attendons, aidons, accompagnons si nous le pouvons et restons extrêmement vigilants sur cette situation.
Yael Braun-Pivet, quelques mots du Maroc. Donc avant de conclure, vous passez 3 jours à Rabat et Casablanca. Pourquoi faire au juste ? Est-ce que c'est la suite du voyage d'Emmanuel Macron en octobre ?
Alors exactement, on se met dans les pas du président de la République qui, lors de son voyage en octobre, a renoué un dialogue extrêmement construit, fécond avec le Maroc, avec ce partenariat d'exception. Et donc maintenant, il faut le décliner, il faut le faire vivre, ce partenariat. Et donc les communautés françaises et marocaines, qu'elles soient dans les secteurs culturels, économiques, productifs, agricoles, le font vivre sur le terrain, et il faut le faire vivre sur le plan parlementaire. Donc c'est le sens du nouveau partenariat que nous avons également signé avec mon homologue Monsieur Alami et les rencontres que nous aurons aujourd'hui et demain à Rabat et à Casablanca. Ces partenariats, en fait, il ne faut pas qu'ils restent simplement des signatures au bas d'une page. Ils doivent se traduire très concrètement dans les faits. Et donc, c'est dans ce cadre-là que ma visite s'inscrit.
Oui, une grande réconciliation qui doit être une réalité, c'est ça ?
Exactement.
Merci à vous, Yael Braun-Pivet, d'avoir été en ligne de Rabat avec nous ce matin.
Merci à vous. Très bonne journée à tous.
À bientôt.
La présidente de l'Assemblée nationale française, Yael Braun-Pivet, entretien avec Arnaud Pontus à retrouver en intégralité sur notre site www.rfi.fr. Vous restez bien avec nous dans un peu plus d'une minute, le journal.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
réunion du partenariat pour la couverture santé universelle de l'OMS à Lyon.
Demain,
question de femmes, les accidents de la vie courante.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Pourquoi RFI dit ça ?
Juliette Rangeval.
Pourquoi la Syrie occupe-t-elle autant de place sur l'antenne de RFI ? Traitons-nous cette offensive rebelle comme nous le faisons dans les pays africains ? L'actualité cette semaine vous fait réagir. Nous revenons sur l'importance stratégique des événements en cours au Moyen-Orient.
Écoutez « Pourquoi RFI dit ça ?» avec Juliette Rangeval. Tous les vendredis à 11h10 et 19h40 sur RFI. Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Originaire d'une tribu nomade dans le Sahara, Bérouk est l'un des grands écrivains de la Mauritanie d'aujourd'hui. Un auteur de langue française qu'il a découverte à l'âge de 13 ans en lisant Victor Hugo. Installé désormais à Nouakchott, il m'a reçu cette semaine pour un grand entretien chez lui, une émission exclusive.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Vendredi, à partir de 13h30 TU.
RFI.